J'estime que le public a le droit de tout savoir, le meilleur et le pire.
C'est quoi ce charabia?
Wider than a mile.
I'm crossing you in style. Someday.
Oh, dream maker.
You heartbreaker.
Oh non, ça suffit. De quoi s'agit-il? D'une blague?
Oui, tout juste.
Cette nuit, notre piston émetteur a été saboté. Saboté. Saboté.
Comment faites-vous pour choisir un film?
En prenant des risques.
Espèce de sac à foutre!
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang!
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Défense de rire et défense de pleurer!
C'est assez extravagant.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Conneries, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Ben oui, c'est le film et le film est bien. Le film est bien.
Bon, en piste les louloutes.
Cette nuit, notre bistrot émetteur a été saboté. Saboté.
Bonjour, bonjour, Yves au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes. Alors je l'apprends à ceux qui nous rejoignent, je le rappelle à ceux qui nous sont fidèles. Depuis un petit moment, on va y revenir. 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent sur les grands écrans depuis maintenant un peu plus d'un siècle. Mais fidèles auditeurs de 24 notes secondes, me direz-vous, qu'avons-nous fait de notre générique, celui d'un film de Blake Edwards tourné en 1961, une musique d'Henry Mancini pour un film intitulé « Diamant sur canapé ». Vous ne l'avez pas reconnu et c'est bien normal, puisque ce jour, eh bien, c'est une émission spéciale pour 24 notes secondes, la centième. Mais oui, la centième émission de 24 notes secondes sur Divergence, commencée à l'âge où les dinosaures parcouraient encore la planète. Et ce jour, eh bien, grâce à leur amitié, nous allons faire une émission co-réalisée entre 24 notes secondes et Cinérama. Donc bonjour Vincent, bonjour Marine, bonjour Manu. Merci à vous d'avoir bien voulu accepter cette invitation et de faire de cette centième eh bien, quelque chose d'un peu plus spécial. Merci tout particulier à Vincent qui justement nous a concocté ce générique qui décoiffe. Avec Richard Klederman qui n'a pas pu venir, qui était retenu ce jour mais qui est avec nous. Richard, on t'aime. Enfin, on ment, mais on t'aime quand même. Donc merci à eux. Et ce jour, eh bien, c'est à eux que je vais laisser la parole. C'est eux qui ont choisi quelques musiques de films, vous l'aurez bien compris, des films qu'ils aiment, des musiques qu'ils aiment aussi, dans les genres les plus variés, peut-être même un peu plus divers que ceux que vous avez l'habitude d'entendre dans 24 notes secondes. Et ce sera donc bienvenu. Je vais tout de suite donc laisser la parole à Manu, qui va vous parler de la première musique que nous allons entendre. Manu, c'est à toi.
Ben, je vais donc vous parler de Phantom of the Paradise, un film de Brian De Palma. Alors la musique est composée par Paul Williams, qui interprète dans le film l'un des personnages principaux. Hein, c'est Swan qui va créer donc une sorte d'opéra rock et il cherche, la musique ultime pour ouvrir le paradise.
Absolument. N'oublions pas de rappeler que Phantom of the Paradise, comme son titre l'indique plus ou moins, est une sorte de remake inavoué du Fantôme de l'Opéra, le fameux roman de Gaston Leroux.
Et puis, un petit côté aussi, ça s'inspire aussi de Faust, de Goethe, et puis beaucoup aussi du portrait de Dorian Gray, puisque dans le film, l'image vidéo de Swan vieillit à sa place. Ces mélanges d'influences sont assez étonnants. Hein. Il s'agit d'un opéra rock que je trouve qu'il n'a absolument pas vieilli grâce notamment à la virtuosité de la mise en scène de Palma. Mmh. Et comme tout opéra rock, alors évidemment, là, on a affaire à une musique qui est un mélange de glam rock, de ballade folk et puis de morceaux plus rock. J'ai choisi d'ailleurs un morceau assez rock qui ouvre à un moment donné le paradise, justement.
Je propose que nous l'écoutions. Après, on dira un petit mot du film, un petit mot de Brian De Palma et de son rapport avec la musique. Vous êtes sur Divergence FM et vous êtes à la fois dans 24 notes secondes et dans Cinérama. C'est pas fort, ça ?
Charming manners with a voice its full sides, joys he'll bring us to our knees in admiration. He is king of all who see and hear his perfect pitch and more surprises. When his time has come, Stallion rises.
Ah ben on laisse le riff jusqu'à la fin, un extrait de la bande originale de Phantom of the Paradise, Somebody Super Like You, un film de Brian De Palma, une musique de Paul Williams dans l'objet, dans le sujet de cette spéciale 24 notes secondes cinérama, c'est la centième, je suis un peu ému, je laisse la parole à Manu pour qu'il nous dise encore quelques mots sur ce film et les rapports fructueux, long, vertueux de Brian De Palma à la musique de film.
Je vais surtout vous parler de la musique de film. Et c'est vrai que la bande originale de Phantom of the Paradise est un peu particulière. Il a utilisé très peu, on va dire, de musique rock, entre parenthèses, De Palma. Il l'a fait une autre fois pour Scarface en prenant Giorgio Moroder comme compositeur.
Ah, absolument.
En orientant le film vers une musique plus disco.
Mais c'était l'époque.
Généralement, c'est davantage une musique, on va dire, symphonique, inspirée du cinéma d'Hitchcock. D'ailleurs, la grande chance de De Palma, c'est qu'Hitchcock et Bernard Herrmann, son compositeur fétiche, se soient fâchés. Du coup, De Palma a pu l'utiliser pour Sisters, son premier grand film, je dirais, et purement hitchcockien pour le coup. Et puis surtout, la magnifique partition de Obsession, que Bernard Herrmann n'a même pas pu voir. Il n'a pas pu voir le film, puisqu'il est décédé juste avant la sortie du film. Et ensuite, il a trouvé un autre compositeur de Palma, c'est Pino Donaggio, qui signera la plupart de ses grandes musiques de films, de Carrie à Pulsion, en passant par Blot. Et il y a un rapport très très particulier à la musique chez De Palma. C'est un peu comme Hitchcock, on suspend le temps et puis il y a très peu, du coup, toutes les scènes musicales sont très importantes, très peu dialoguées, au point qu'on a l'impression que la musique envahit totalement le film, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Contrairement à des productions hollywoodiennes aujourd'hui, où la musique elle est présente 2 heures sur 2 heures, et on ne l'entend pas forcément, on ne fait même plus attention, ouais, parce qu'elles finissent par tous se ressembler, alors que chez De Palma, c'est très très important. Toutes les parties musicales contribuent au suspense, elles sont aussi importantes que l'image, elles soutiennent formidablement l'image.
Absolument, une contribution exemplaire avec donc Pino Donaggio, on l'a dit, Bernard Herrmann, mais aussi avec Ennio Morricone qui a signé quelques bandes originales pour De Palma, notamment celle des Incorruptibles, et même Danny Elfman qui a signé la bande originale de Mission Impossible.
Et John Williams pour Fury aussi.
Absolument, un grand compositeur, un grand cinéaste. On va passer maintenant à un tout autre genre, puisque c'est l'avantage de 24 notes secondes et donc de cette émission toute spéciale. Je vais laisser la parole à Vincent. Alors vraiment quelque chose du grand écart, dirais-je, puisque nous allons revenir en terre française. Vraiment en terre française, avec un cinéaste rare mais précieux, n'est-ce pas Vincent ?
Tout à fait, c'est Léos Carax avec son deuxième film, c'était Mauvais Sang, un film que j'apprécie tout particulièrement. Alors je dirais pas que... Alors Léos Carax dans ses films ne fait pas apparaître de compositeur, il ne demande pas à quelqu'un de composer la musique, il prend des musiques additionnelles. Là il y en a très peu en fait dans Mauvais Sang, mais à chaque fois elles sont importantes, elles soulignent une séquence, un instant dramatique. On va écouter un petit montage que j'ai fait pour et qui les rassemble, et après on écoutera un plus large extrait.
Il lui a dit veux-tu? Elle n'a dit ni oui ni non, c'est une fille avec un garçon.
Dans les rues de la ville, il y a mon amour. De toute façon, il en avait fini avec moi.
Non, faut pas dire ça. Un jour, vous vous seriez retrouvés.
Un jour ou deux, peut-être.
J'ai pas de regret d'avoir fait ce que j'ai fait.
Les hommes silencieux, ça met mal à l'aise. On les croit forcément génies ou abrutis.
Une catastrophe.
tes jolis yeux. Cette nuit, ma petite Lise, ferme tes jolis yeux, car la vie est un songe.
Voilà, un petit mélange bienvenue pour une illustration musicale, mais aussi extrêmement sonore, d'un film de Léo Scarrac sorti en 1986, Mauvais sang, qui réunissait dans les rôles principaux Denis Lavant, Juliette Binoche et Michel Piccoli, et dont la bande originale mélangeait allègrement Benjamin Britten, dont nous fêtons le centenaire de la naissance, Prokofiev, Charlie Chaplin, d'après ma petite fiche, et quelques autres, n'est-ce pas, Vincent?
Oui, il y avait aussi Serge Reggiani, qu'on va écouter tout à l'heure, et il y avait aussi David Bowie. Enfin, c'est cette séquence que j'ai choisie, une séquence où il y a Denis Lavant et puis Juliette Binoche qui sont là. Il disait Denis Lavant, on veut mettre la radio parce qu'il estime que voilà, à chaque fois qu'on met la radio, on tombe toujours sur quelque chose qui nous trotte tout au fond. Et il y a deux musiques qui vont s'enchaîner, deux musiques totalement différentes. Et voilà, j'ai choisi cette séquence parce qu'elle est très, très impressionnante. C'est Denis Lavant qui court sur David Bowie dans une rue reconstituée d'ailleurs, parce que Mauvais sang a été tourné dans des studios intégralement, alors qu'on a l'impression que c'est des rues parisiennes.
Eh ben, courons avec David. Allez, David, on court avec toi.
Je vais mettre la radio. J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer. On tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Tu vas voir. C'est magique. Attention. Pas de chance. Donne-moi un chiffre, Anna. Au hasard. Vite, Anna, un chiffre. D'accord, 3. 1, 2, 3. Voilà. Écoutons et laissons-nous dicter nos sentiments.
J'ai pas de regret d'avoir fait ce que j'ai fait. Je pouvais plus vivre avec sa peine. Jetez-moi la pierre si vous n'avez jamais tant souffert comme moi je souffrais. Par grande misère, elle avait oublié ce que c'est pour de vrai quand on s'aime. Mon soleil d'hiver, mon eau fraîche en été, ma Nelly, je l'aimais, je l'ai tuée.
Et maintenant, pour Christophe qui habite le cinquième, de la part de Juliette qui habite le premier, L'amour moderne, par David Bowie.
Voilà, donc là, c'était la séquence dans son intégralité. Donc, ce David Bowie, L'amour moderne. Et puis, la chanson de Serge Reggiani qu'on entend à la radio, c'est les textes sont de Boris Vian.
Absolument, effectivement, un mélange sonore très original. Et comme tu l'as dit, une des spécialités de Léo Scarrac. Alors, je voulais juste réagir sur le mot reconstitution que tu as évoqué. On a dit que Léo Scarrac, c'était un cinéaste rare, puisque Il n'a réalisé que moins d'une demi-douzaine de films, et je suppose que dans la région, personne n'aura oublié le tournage calamiteux, long, sauvage des Amants du Pont-Neuf, qui lui aussi était une reconstitution, quelque part dans la Garingue, là-bas, du Pont-Neuf, de la Samaritaine et de quelques endroits, et un film qui a été certainement l'un des plus coûteux de l'histoire du cinéma, et aussi français en tout cas, et un de ceux qui a rapporté le moins d'argent, n'est-ce pas Vincent ?
Oui, tout à fait.
C'est bien dommage, puisque ensuite, eh bien, Léos Carax a connu une éclipse assez longue, de laquelle il est ressorti brillamment, et on pourra citer, sorti, sauf erreur de ma part, l'année dernière, le magnifique Holly Motors, qui renouvelait encore, enfin, pour lequel Léos Carax retrouvait, bien sûr, Denis Lavant, un acteur habité, qui peut-être, sans lequel Léos Carax ne serait rien.
Oui, oui, effectivement, ouais. Non, c'est vrai, ils sont très liés, moi, on avait diffusé, d'ailleurs, une interview de Denis Lavant, qui parlait de Léos Carax, effectivement, ils sont indissociables, voilà.
Et puisque je vais aussi laisser parler mon cœur de Midinette, et j'ai évoqué la Samaritaine, justement dans Holly Motors, il y avait une scène absolument magnifique tournée, sauf erreur de ma part, dans la Samaritaine, pour l'instant désertée, où on voyait Kylie, on t'aime, Kylie Minogue qui chantait une magnifique chanson aussi qu'on aurait pu écouter ce jour dans 24 notes secondes. Cinérama, je vous le rappelle, à ceux qui n'étaient pas au début et ils ont loupé le générique, mais ils pourront le podcaster sur le site de Divergence FM. Nous sommes dans une spéciale, la centième de 24 notes secondes, pour le coup, avec les animateurs de Cinérama, Vincent, Manu et Marine, à laquelle maintenant je vais laisser la parole, Marine.
C'est elle, oui, c'est Marine.
Puisque Marine a choisi un film au titre prononçable, Old Boy, mais c'est bien la seule chose qui soit prononçable dans ce film étranger, n'est-ce pas, Marine, dont le réalisateur s'appelle, je me lance et après je te laisse la parole, Park Chan-wook.
Park Chan-wook, voilà, c'était presque ça. Donc voilà, donc après les États-Unis, la France, maintenant on va encore plus loin, on va côté coréen. Alors, en effet, Old Boy, c'est le
du
segment...
Du Sud.
Oui, Corée du Sud, parce que la Corée du Nord, pour l'instant, niveau
on
cinéma,
c'est pas
encore ça.
On ne connaît pas trop la musique de film, mais encore moins le cinéma.
Voilà, là, ils en sont à un tous les 12 ans. Et voilà, donc on va revenir aussi au cinéma de Corée du Sud. Donc, le segment central de la trilogie dite de la vengeance de Park Chan-wook. Old Boy, c'est un film sorti en 2003 et présenté à Cannes, où le jury, présidé à ce moment-là par Quentin Tarantino, lui avait octroyé le Grand Prix. Un thriller qui installera définitivement le style Park Chan-wook, à la fois poétique, noir, pervers, et dont le twist final demeurera l'un des plus marquants des années 2000. Un film qui participera de façon vraiment déterminante à la reconnaissance du cinéma coréen de par le monde et qui accédera rapidement au statut d'œuvre culte, même si tu ne le connaissais pas.
Si, je l'ai vu. Je m'inscris en faux, je l'ai vu, je n'en ai pas gardé un très très grand souvenir, je dois le dire, je l'avoue.
Comment est-ce possible ?
Oui.
Même de la musique ?
Continuons.
Surtout.
La musique, justement, eh bien, est composée par Cho Young-hook.
Ah, tu vois, je l'avais
Elle
dit.
Elle y joue un rôle primordial, en particulier, justement, dans l'esthétisation de la violence. Et alors, mon choix est assez compliqué parce que vraiment, la BO regorge d'excellents morceaux, tous très divers, et qui portent tous des titres de films. Il y a notamment Cul-de-sac, Frantic, et celui qu'on va écouter qui s'appelle Cries and Whisper, donc Cris et chuchotement.
On se refait encore le nom du compositeur et après on passe à la musique.
Cho Young-hook.
Ah, c'est très bien, vous êtes sur Divergence FM.
Thank you.
allez, je me lance. Un extrait de la bande originale d'Old Boy, une musique de Joe Young-wook pour un film de Park Chan-wook. L'ai-je bien descendu, Marine ?
Parfait. Parfait, c'est exactement ça.
Alors pourrions-nous préciser que d'après ma petite fiche ne ment jamais, nous avons eu un remake indien du film tourné en 2005 par Sanjay Gupta. Ne me dis pas que tu l'as vu.
Non, je ne l'ai pas vu, mais voilà. Il y a surtout un remake qui va venir de Spike Lee. Ouais.
Voilà, un remake de Spike Lee qui vient d'être tourné avec Josh Brolin dans le rôle principal qui était tenu dans le film de Park Chan-wook par
Cho Yun-fat.
Elle l'a dit quand même. Je pense que de ce remake, on peut attendre le pire, n'est-ce pas Marine ?
Je sais pas, en tout cas je serais très très critique, ça c'est sûr.
Voilà, et eh bien écoutez, à l'occasion dans Cinérama bien sûr, sur Divergence FM bien sûr, une spéciale 24 notes secondes Cinérama et nous allons passer à tout à fait autre chose. Alors là, Old Boy, je l'avais vu, mais le film suivant, Vincent, je ne le connaissais pas, le réalisateur, je ne le connaissais pas et les autres films qu'il a tournés, je ne les ai jamais vus non plus, donc je te laisse la parole. Okay. Vincent, c'est à toi.
Eh bien moi, je peux pas dire non plus que j'en ai vu beaucoup, mais...
Tu me rassures.
Peut-être que les auditeurs ont pu voir Perfect Sense et je crois que Marine t'avait beaucoup aimé Perfect Sense. Donc il s'agit de David Mackenzie.
Marine fait semblant.
Non, j'avais vraiment beaucoup aimé. C'était un des meilleurs films de cette année d'ailleurs. D'accord. Pour moi.
Bon. Et donc My Name is Alan Faux, c'est un film, alors comme tu as les fiches, et moi j'ai une fiche mais très sommaire en fait, hein, je m'en aperçois, c'est un film de 2007 je crois.
Je n'ai pas de fiche, je n'ai pas de fiche, honte à moi, mais nous allons chercher pendant que nous écouterons et éventuellement on reprécisera.
Mais je pense que mes souvenirs sont à peu près bons, alors pourquoi j'ai choisi ça? Alors déjà parce que j'apprécie le film, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui vit à la campagne, qui a un petit côté voyeur, et puis qui s'entend très mal avec ses parents, et notamment après une dispute avec son père, il décide d'aller à Glasgow, dans la grande ville, et puis là, comme il est dans une ville avec tout un tas de fenêtres éclairées, il monte dans un clocher, il installe une loupe, et là il se prend à être un voyeur. Enfin, c'est vraiment un film je vois tout ce que, mais je vois sans être vu. Mm-hmm. Et donc il tombe amoureux d'une femme qui l'épie, et ainsi de suite. Voilà, My Name is Alan Faux, donc c'est ça, le film.
Douglas Mackenzie, Glasgow, on conclurait-je que le réalisateur est écossais ?
Alors, c'est David Mackenzie.
Ah,
je ne sais pas si ça change grand-chose. Hein, ouais. Et donc, pourquoi j'ai choisi ce film ? Alors déjà, donc, parce que je l'apprécie. Formellement, il est plutôt bien réussi, mais c'est aussi pour la bande originale. Alors là, non plus, il n'y a pas de compositeur spécifique pour ce film. C'est de la musique additionnelle et qui vient notamment d'un label qui s'appelle Domino, qui est un label que moi, je connais beaucoup d'artistes de ce label. Mm-hmm. C'est ce qui m'a accompagné dans mes jeunes années. Et donc, c'est pour ça que j'ai été très, très sensible, en fait, à tout ce que j'entendais. C'est des sonorités qui me plaisaient. Donc, ça m'a permis aussi, sans doute, j'imagine, d'apprécier d'autant plus le film. Alors, j'ai préparé à nouveau un montage en 1 minute 30. On va pouvoir écouter à peu près toutes les musiques qu'on entend. Et après, je vous passerai un extrait un peu plus conséquent.
Donc, on se rappelle le réalisateur.
David Mackenzie.
On se rappelle le titre.
My Name is Alan Faux.
Et on se rappelle le nom de la station de radio.
C'est Divergence FM.
Find a quiet corner and a quiet harbor bar.
Lay a poquito on. Thank you.
J'ai terminé sur une musique électronique pour te faire plaisir, Yves.
Je ne relèverai même pas.
Tu platines du Rockstar bientôt, non, Vincent c'est...
Voilà, donc il y a 18 donc, interprètes.
Un extrait de la bande originale, en fait plusieurs extraits de la bande originale de My Name is Alan Faux, un fils de David Mackenzie. Excuse-moi, David, je ne connaissais même pas ton existence avant l'émission de ce jour.
Et donc, et ben pour le coup, on va écouter un plus long morceau que j'ai pas mis dans ce montage et qui n'est pas d'ailleurs dans la bande, bande originale telle qu'elle est elle était vendue
c'est des
dans le commerce.
Qui arrivent. Voilà.
Et pourtant, elle est dans le film, ça je suis sûr de l'avoir entendu. C'est même le premier morceau qui apparaît. C'est
Droits, sans doute.
Ouais, peut-être. Mais ils viennent aussi du label Domino qui édite. Enfin bon. Bref, c'est Pram et c'est Track of the Cat.
Track of the Cat. On écoute.
We'll be right back.
Voilà un extrait de la bande originale de My Name is Alan Foe, un zeste de Morricone, un doigt de John Barry et une grande rasade de Burt Bacharach. Je suis sûr que Quentin Tarantino aurait beaucoup aimé, mais c'est bien quand même, n'est-ce pas Vincent?
Oui, moi je suis très fan et c'est vrai que Marine a trouvé aussi que c'était un mélange avec Gorillaz. Au niveau de l'orchestration, qui est de la musique
Joker.
Un peu électro.
Joker sur Gorillaz, et on arrête de me chambrer sur mon âge, on sera gentil, même si c'est la centième de 24 notes secondes. Cela ne veut pas dire que l'émission soit annuelle non plus, enfin n'exagérons pas. Maintenant, avec Manu, on va passer à tout à fait autre chose, mais tout en restant bien sûr dans la musique de film, on va revenir un petit peu en arrière dans le temps, sauf
dans les années 70.
Dans les années 70, là encore personne ne relèvera, avec un film de Dario Argento, Les frissons de l'angoisse, n'est-ce pas Manu?
Dario Argento.
Ça sera mieux effectivement, mes excuses.
Alors, Les frissons de l'angoisse, le titre est un peu stupide. Hein. C'est un peu comme si on appelait un film, la terreur de la peur. En fait, le titre original, c'est Profondo Rosso,
c'est
rouge profond.
Mieux.
Et c'est donc le quatrième giallo de Argento, après des films comme L'oiseau au plumage de cristal, Quatre mouches de velours gris et le troisième, Le chat à neuf queues.
Tu nous rappelles ce que c'est qu'un giallo?
Un giallo, c'est un thriller italien. Hein, voilà. C'était pour dénommer le thriller italien en opposition au film noir. Et ça vient en fait de romans populaires qui possédaient une couverture jaune. Et on les appelait donc les giallos. Ça vient de la littérature à la base.
Hein. C'est jaune, mais c'est bien sanglant quand même.
C'est assez sanglant. Bon, c'est des intrigues policières qui tournent autour généralement de meurtres. Il faut découvrir l'assassin. Enfin, il y a un petit côté comme ça, Agatha Christie. En plus, ça avec une ambiance de roman photo.
Je ne suis pas sûr qu'Agatha Christie aurait beaucoup apprécié.
Non, mais bon, sur le plan des constructions, de l'intrigue, ça peut évoquer justement ce type de littérature anglo-saxonne. Mm-hmm. Argento, c'est plus particulier parce qu'à la fois, il fait du cinéma populaire et en même temps, son cinéma, il le théorise, notamment dans Les frissons de l'angoisse, qui s'inspire en fait beaucoup d'un film d'Antonioni, Blow Up.
Et dont il reprend d'ailleurs l'acteur principal.
Donc il reprend l'acteur principal, David Hemmings. Et il joue. Alors c'est amusant justement de comparer Argento avec De Palma, qui lui va aussi s'inspirer de Blow Up avec Blow Out.
Mm-hmm. Et Blowout.
La différence entre justement De Palma et Argento, c'est que dans l'intrigue policière, chez De Palma, il y a toujours une image qui manque pour résoudre l'intrigue. Alors que chez Argento, c'est assez particulier, c'est une image qui ment, c'est toujours un trompe-l'œil. Dès les 15 premières minutes, dans Les frissons d'angoisse, on découvre le coupable, on l'a sous les yeux, mais on ne le voit pas. Je crois que c'est la grande force du film. L'autre grande force, à mon avis, c'est la musique, l'utilisation de la musique. Il rompt avec toute une tradition, on va dire, du cinéma fantastique, qui utilisait donc des partitions plus symphoniques. Il est un des premiers à utiliser une musique, on va dire, plus rock, jazz-rock. Avec le groupe Les Goblins. Et la musique est arrangée aussi par un compositeur un peu avant-gardiste qui s'appelle Giorgio Gaslini, qui était un jazzman en fait dans les années 70. Donc il y a une musique un peu curieuse entre jazz-rock, pop. Et... Donc on va écouter le morceau Profondo Rosso et le morceau éponyme. Donc.
Absolument. Voilà. 24 notes secondes. Cinérama, la centième, clop, moteur. Thank you.
Alors les Gobelins, hein, qui ont composé donc la musique de Profondo Rosso, signeront une autre bande originale mémorable, hein, pour Argento, hein, c'est Suspiria.
Absolument.
Et c'est un groupe de rock progressif italien qui a eu son heure de gloire dans les années 70. Et qui
tu peux nous le répéter, s'il te plaît, Manu? Un groupe de rock progressif italien.
Oui, voilà. Ça existe.
C'est très très bien. On apprend des choses sur Divergence FM. Hein. Mm-hmm.
Alors, c'est cette façon d'utiliser justement la musique un peu plus pop, rock. Déjà, Argento l'avait déjà fait avec les musiques de Morricone, qui étaient assez expérimentales, assez étranges, en fait.
Absolument, puisque beaucoup des films que tu as cités comme étant les premiers Dario Argento ont eu effectivement pour compositeur Ennio Morricone.
Et il s'agit de bandes originales que je trouve vraiment passionnantes, hein, où il mélange vraiment le style habituel de Morricone à base de comptines. Il y a beaucoup d'éléments de jazz rock aussi, de free jazz aussi assez particulier, et qui donne une ambiance très moderne en fait à ce qu'on pourrait considérer comme des thrillers classiques en apparence.
Absolument, en tout cas un réalisateur qui a su utiliser et la musique de film et les compositeurs à leur meilleur, puisqu'on a donc cité Ennio Morricone et les Gobelins, je n'ai pas pu résister, le groupe de rock progressif italien, ne l'oubliez pas, chers auditeurs de Divergence FM, 24 notes secondes, Ciné-Rabat réunis, mais, le dit Dario Argento, puisqu'il n'y a pas de hasard dans la vie, a aussi utilisé les talents de Pino Donaggio, déjà cité tout à l'heure à propos de Brian De Palma, et qu'on retrouve au générique de Deux yeux maléfiques, que je n'ai pas vu, je l'avoue, et de Trauma. N'est-ce pas, Manu ?
Que j'ai vu les deux.
Absolument. Et on peut aussi citer, avant de passer à tout à fait autre chose, que la bande originale d'Inferno, encore un grand film de Dario Argento, réunissait, si l'on peut dire, en tout cas à l'écran, Keith Emerson et Giuseppe Verdi.
Oui, un mélange Keith Emerson, tout à fait étonnant. C'était le leader d'un groupe de rock, de rock progressif, et qui s'appelait Emerson, Lake & Palmer.
Absolument. Qui me ramène dans mes jeunes années, ou presque, n'exagérons pas. Et maintenant avec Marine, si elle veut bien arrêter de se couper les ongles, on va passer à tout à fait autre chose. Excuse-moi Marine, et quasiment en conclusion de cette émission, en tout cas musicalement, puisque nous allons nous intéresser à un film de Wim Wenders, le dernier à ce jour, Courage de Wim Wenders, n'est-ce pas Marine ?
C'est bien ça, me semble-t-il. Pina, tout à fait. Un film donc de Wim Wenders de 2011, un documentaire en fait consacré à la chorégraphe Pina Bausch et qui se voulait être, je cite, le premier film d'auteur en 3D. Alors il a dû faire face dans ses premiers mois d'élaboration à un problème de taille puisque son sujet principal, la chorégraphe, est décédé. Ce qui au final participera sans doute à l'atmosphère assez particulière dont il emprunte le film. Il faut savoir que le réalisateur et Pina Bausch avaient déjà une amitié en fait longue de 20 ans lorsqu'ils ont décidé de créer en fait un film dansé, c'est-à-dire dans lequel l'utilisation de la 3D obligerait à filmer au milieu des danseurs et donc à anticiper tous les mouvements. D'où évidemment l'importance très grande de la musique. Alors le film bénéficie d'une musique originale composée par Thomas Enreich, qui a d'ailleurs souvent travaillé avec Wim Wenders, mais il réutilise également des musiques extraites des spectacles de la chorégraphe, comme par exemple le titre qu'on va écouter, Lilies of the Valley, qui est composé par Rune Miyake. Rune Miyake, c'est un compositeur japonais qui a travaillé donc avec Pina Bausch et d'autres chorégraphes comme Philippe Decoufflet, mais qui a également travaillé sur d'autres bandes originales de films, comme notamment ceux des films de Oliver Stone. Voilà.
Ah voilà, un grand écart quand même de Pina Bausch à Oliver Stone. Ma foi, pourquoi pas, allez, on s'en écoute un extrait. C'est quoi l'extrait ?
Lilies of the Valley.
Sur Divergence FM. Thank you. Ah ben ça finit un peu brutalement. Ouais. Un extrait de la bande originale de Pina, un film de Wim Wenders. Ça s'appelait Lilies of the Valley, n'est-ce pas Marine ?
C'est ça.
Absolument. Et je consultais mes petites fiches. Apparemment, Wim Wenders a fait depuis un nouveau film qui devrait sortir début 2014. Ça s'appelle Everything is going to be fine. Ça fait envie, non ?
Mmh. Voilà. J'espère que ça se passera bien, Wenders, en effet. Oui.
Alors, on va peut-être finir cette émission de 24 secondes et de cinérama avec un petit peu d'actualité quand même, même si ce n'est pas l'objet de 24 secondes. Par contre, c'est celui de cinérama, toujours du chaud bouillant, car Marine voulait nous faire partager ce jour, presque en exclusivité, dans cette 100e émission, son dernier coup de cœur, n'est-ce pas Marine ?
Tout à fait, tout à fait. Dommage que je ne l'ai pas vu en fait avant mon flop de la semaine dernière, parce que vraiment là, je pense qu'on tient un grand vainqueur pour l'année 2013. Angélique.
Angélique
de Ariel Zetoun.
Allons-y.
C'est en ratage assez total. Disons, à part l'actrice principale Nora Herzedegger, qui n'est pas une grande actrice, mais qui au moins donne tout ce qu'elle peut.
Comme disait mon papa, est-ce que vous soutenez tout ce que vous avancez ? Continuons.
Et en revanche, tous les autres comédiens autour, il y a quand même Mathieu Kassovitz qui fait son retour en tant que comédien qui est déplorable.
Gérard
Gérard Lanvin est pas mal. Et la réalisation est absolument pathétique.
Ça fait envie, c'est furieux.
Le dernier quart d'heure est extrêmement bâclé et ils ont quand même osé faire des combats de cap et d'épée au ralenti, chose que j'avais pas fait depuis le Pacte des Loups.
Tarantino est passé par là.
Ouais, non, ou juste, c'est pas des
de
réductions
corps,
de budget.
Mais il avait trop bu.
Là, c'est un problème de mise en scène, de scénario. Rien ne va. C'est une très grosse calamité.
Rappelons quand même que Angélique, c'est, et apparemment ça restera, Michel Mercier qui, entre 1964 et 1968, et bien après sur les écrans de télévision, a enchanté les journées et les soirées de quelques adolescents prépubères, avec évidemment Angélique, Marquise des Anges, et la suite. Alors je crois qu'il y a eu Angélique et le roi, Angélique, merveilleuse Angélique, indomptable Angélique, et enfin le dernier, Angélique et le sultan. Mais Manu, je sais que tu es toi aussi un fan d'Angélique, la seule, la vraie.
Oui, Michel Mercier, j'adore.
Absolument.
Et je l'avais vue d'ailleurs, elle a joué dans beaucoup de films italiens, elle était brune dans beaucoup de films un peu bis, notamment un film qui est superbe qui s'appelle L'île des filles perdues.
Oh, où elle est en petite tenue.
Elle est en petite tenue tout le long du film. Et le film est remarquable.
Absolument.
C'est le bagne, mais avec des filles nues un peu, enfin à nu.
Oh, tiens, voilà.
C'est un film de 1960. Hein.
Absolument.
Ça n'excuse rien.
Faisons quand même un sort à Robert Hossein, qui était, je dirais, dont Gérard Lanvin n'est que l'avatar. Est-ce que Gérard Lanvin a la même et si esthétique cicatrice quelque part là sur le haut du front, bien avant Harry Potter ?
Tout à fait. D'ailleurs, on ne croit pas trop qu'il soit conspué pour sa laideur, parce que ça reste quand même un beau gosse, quoi, malgré le fait qu'il ait
avec
une cicatrice. Gros muscles.
Gérard Lanvin.
Mais Robert Hossein aussi, hein, finalement.
Voilà, pareil.
Absolument. Donc, on se précipite dans les salles à partir de quand, Marine ?
Bah jamais, hein, faut mieux.
Éviter. Ah mais si, tu as donné envie. Donc ce film sort.
Téléchargez-le en streaming, de façon illégale.
D'accord. Ah bah oui, bah, quand
ça
même.
Ça sera dit dans 24 notes secondes, mais pas dans cinérama.
Je voulais quand même aussi ajouter, effectivement, au titre de 24 notes secondes, merci Vincent, que la musique des premiers Angélique était signée de Michel Magne, qui fut l'un des plus grands compositeurs de musique de film des années 60-70, et notamment le collaborateur attitré et complice de l'infâme, de l'ignoble Jean-Yann, mais qui faisait bien rire quand même aussi. Personne ou presque n'aura oublié. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Moi, il y en a à vouloir des sous, ou les Chinois à Paris, ou alors c'est un grand silence blanc.
Oui, d'accord. J'ai vu ça.
Et bien, tous ces films de Jean-Yann qui furent à leur époque des succès, le cinéma populaire tel qu'on l'entendait dans les années 60-70. Et maintenant, on a Angélique avec, comment s'appelle-t-elle déjà, cette superbe créature ?
La comédienne ?
Absolument.
Nora Herzedegger.
D'accord. Alors, on va quand même dénoncer tous les petits camarades avant de conclure cette émission. Le réalisateur ?
Ariel Zetoun.
Et il me semblait aussi avoir lu que la musique était signée d'un certain Alonso, mais je n'ai pas bien noté.
C'est ça,
voilà.
Gilles Alonso.
On les a tous dénoncés, donc en streaming seulement.
Oui, parce que c'est une insulte au cinéma français, donc
d'accord.
Je suis totalement contre ce genre
qui
de...
Qui n'en demandait pas tant déjà sur cette année 2013, en tout cas, à mon avis.
L'année 2013 a été un peu compliquée pour le cinéma français.
Absolument.
Ça a été vraiment compliqué au niveau production, au niveau scénario, au niveau flop.
Absolument.
Pas donc, la peine d'en mettre une couche avant Noël.
Je vais me permettre de conclure avec mes propres goûts. Si le film des frères Cohen passe encore quelque part près de chez vous, précipitez-vous, c'est un petit coco. Plus il fait froid, plus vous l'appréciez. Et puis si vous n'avez pas vu encore The Immigrant de James Gray, malgré son tiède accueil à Cannes, eh bien là encore, il faut s'y précipiter. N'est-ce pas Vincent ? N'est-ce oui. pas Manu ? N'est-ce pas Marine ?
Parfaitement.
J'irai.
Absolument. Et bien voilà, on va conclure sur ça et on va se refaire encore un petit coup du générique que Vincent nous avait préparé. Ah bah et je oui. le remercie beaucoup pour cette centième de 24 notes secondes.
Merci. J'estime que le public Merci. A le droit de tout savoir, le meilleur et le pire.
C'est quoi ce charabia?
Wider than a mile.
I'm crossing you in style.
Someday.
Oh, dream maker.
You heartbreaker.
Oh non, ça suffit. De quoi s'agit-il? C'est une blague?
Oui, tout juste.
Cette nuit, notre positron émetteur a été saboté. Saboté. Saboté.
Comment faites-vous pour choisir un film?
Prenons des risques.
Espèce de sac à foutre!
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang!
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Défense de rire et défense de pleurer!
C'est assez extravagant.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Conneries, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Ben oui, c'est le film et le film est bien. Le film est bien.
Bon, en piste les louloutes.
Cette nuit, notre bistrot émetteur a été saboté. Saboté.